Hier, je vous indiquais ce phénomène étonnant, ce fait étonnant, sur lequel nous nous arrêtons sûrement pas assez souvent, à savoir que, alors que les évangiles sont écrits dans la lumière de la résurrection, gardons tout ça à l'esprit en permanence, vous voyez, c'est le Christ ressuscité que les évangélistes présentent, décrivent. La résurrection n'apparaît pas comme une surprise. La fin, c'est dans la lumière de la résurrection que les évangiles ont été écrits. Et malgré cela, la passion, la mort de Jésus est longuement décrite. Et c'est très important d'avoir cela à l'esprit. Je pense que ça peut nous faire beaucoup méditer. Et ça veut dire que encore une fois, au lieu de considérer que ces événements douloureux devraient être mis de côté, devraient être écartés puisque le Christ est ressuscité et que tout va bien, eh bien, les évangélistes prennent le temps de décrire l'arrestation de Jésus, son procès, ses procès, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau. Ouais, ça veut donc dire que ces événements que nous n'aimons pas regarder sont pourtant décisifs pour comprendre le mystère de Dieu, pour comprendre la personne de Jésus-Christ. Et donc il est important, c'est ce que nous allons faire durant tout ce Vendredi Saint, il est important de regarder Jésus dans sa passion, dans sa mort, pour comprendre ce qui est en jeu. Alors, je voudrais aussi, c'est une remarque générale pour bien prendre les évangiles, mais ça fait du bien de temps en temps de se redire cela, et d'essayer que nous ayons tous également à l'esprit le fait que chaque évangéliste, du coup, relie les événements. Je l'ai déjà dit hier, mais je le redis. Et ces événements de la Passion ne sont pas pris au fil de leur déroulé, hein, comme un reporter, mais qu'il y a une relecture des événements après la résurrection pour comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a 4 évangiles, c'est pour ça qu'on a 4 regards, c'est pour ça qu'on a 4 relectures. Moi, je vous invite vraiment à, autant que possible, de temps en temps, à rester sur un évangile, et à comprendre que Saint Matthieu, par exemple, lit les choses d'une certaine manière, Saint Marc lit les choses d'une autre manière, Luc de même, Jean de même. Les mêmes événements sont présentés, compris, exposés, selon un regard particulier. Donc voilà, je me suis contraint moi-même, hein, à essayer de rester sur 2 évangiles, comme je l'ai déjà évoqué hier, c'est-à-dire Matthieu et Jean, hein, parce que nous sommes dans l'année Saint Matthieu. Vous avez bien remarqué que le dimanche, c'est l'évangile de Matthieu que nous lisons, et parce que Jean est spécialement donné durant ces jours de la Passion, durant toutes les 2 semaines précédentes, enfin la semaine précédente et cette semaine, et que ce soir, à l'office de la Passion, c'est la Passion selon Saint Jean que nous lirons. Et dimanche dernier, nous avons entendu la Passion selon Saint Matthieu. Alors, prenons la Passion selon Saint Matthieu, essayons de voir comment est-ce que Matthieu, voyez, nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Hein, ne nous donne pas simplement une liste d'événements, voilà, de faits, mais nous donne des clés pour que ces événements nourrissent notre foi, pour que ces événements nous aident à comprendre ce qui se passe dans la Passion et dans la mort de Jésus. Nous avons besoin, je vais dire la chose de manière toute simple, hein, nous avons besoin des évangélistes pour comprendre ce qui se passe dans la Passion. Sinon, nous sommes perdus. Sinon, nous sommes perdus. Hier, j'indiquais que il y a 4 gros blocs, si je puis dire, que nous retrouvons dans les 4 évangiles, dans chaque évangile. Il y a des différences, évidemment, mais systématiquement, l'évangéliste, chacun des évangélistes, lorsqu'il présente la passion de Jésus, décrit l'arrestation, décrit un procès juif, un procès auprès des Juifs, décrit un procès romain avec Pilate, et enfin le calvaire, la crucifixion, la mort de Jésus. On retrouve ces quatre éléments qui sont là donc dès l'origine. Alors hier, j'évoquais chez saint Matthieu la prière de Jésus à Gethsémani. Après cette prière, voilà qu'apparaît le groupe des soldats avec Judas. Écoutez ceci, donc c'est en Matthieu 26. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe, celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrasse. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?» À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Voilà dans ce récit de l'arrestation, voilà déjà la clé de saint Matthieu. Saint Matthieu ne va pas cesser de faire référence aux Écritures, aux écrits des prophètes. Il arrive à voir dans tout ce que vit Jésus l'accomplissement des Écritures, l'accomplissement de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Il fait une correspondance entre ces événements et ce que les Écritures disent de Dieu, du Messie de Dieu, du Christ de Dieu. Alors dans ce petit passage, je vais juste deux, trois remarques. La première, c'est que, vous voyez, cette allusion à l'ami, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Est une allusion probable au psaume 55-54, dans lequel il est question de l'ami qui partageait mon pain, comme dit le psalmiste, et qui trahit. Jésus est cet ami dont les Écritures annoncent qu'il trahira son compagnon. Et puis, vous avez ces deux références que nous venons d'entendre, ces deux fois où Matthieu indique clairement comment s'accompliraient les Écritures. Voilà. Tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. De même, lorsqu'on va dans le procès de Jésus, de même, on a une grande citation de Jésus devant le grand prêtre. Après avoir été arrêté, Jésus est emmené devant Caïphe, le grand prêtre. Pierre suit à distance, ce qui est déjà un problème. Le note en passant, si nous suivons Jésus à distance, nous sommes déjà dans la difficulté et Pierre va renier parce qu'il est déjà à distance de Jésus. Et voilà que l'accusation qui était dressée contre Jésus, vous la connaissez, c'est en Matthieu 26, verset 61, voilà des témoins, des faux témoins qui disent « Jésus a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » En tout cela, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. » Dans ce procès juif, dans ce procès chez Caïphe, il y a plusieurs éléments à noter. Le premier élément, c'est que les faux témoins évoquent la destruction du temple, la destruction du sanctuaire. Et si vous avez quelques souvenirs, vous pouvez vous rappeler qu'au moment où Jésus va mourir, précisément, le rideau du temple va se déchirer. Le temple ne va pas se détruire, mais le rideau du temple va se déchirer. Autrement dit, ce qui est déjà en question, c'est la manière dont Jésus est le temple, le lieu dans lequel, par lequel, nous pouvons rencontrer Dieu, nous pouvons avoir accès à Dieu. Donc vous voyez, dans ce simple petit témoignage, nous sommes déjà en train de nous approcher du mystère de la mort de Jésus comme cet acte par lequel nous retrouvons la communion avec Dieu. Donc ces témoins qui disent il a annoncé qu'il allait détruire le sanctuaire et qu'il allait le rebâtir en 3 jours. Et puis vient la grande question. C'est étonnant, chez saint Matthieu, tout de suite le grand prêtre pose la question fondamentale. Es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Vous savez que Christ et Messie, c'est pareil. Le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus répond par cette déclaration solennelle dont je vous parlais. C'est toi-même qui l'as dit, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Si vous prenez vos Bibles, vous verrez sans aucun doute que ces versets sont en italique. Ces versets sont des références à l'Ancien Testament. Je relis, hein, « Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. » Alors, un peu technique ce que je vais raconter, mais je pense que c'est vraiment important. Il y a ici la rencontre entre deux éléments de l'Ancien Testament, deux traditions de l'Ancien Testament. D'une part, celle autour du Fils d'homme, Fils de l'homme. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est dans le livre de Daniel qu'il est question d'un Fils d'homme. Daniel 7 en particulier. Un Fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel. Dans ce Fils d'homme, il participe vraiment à la puissance de Dieu. Puisque dans la vision de Daniel, il y a un vieillard, un ancien, et un fils d'homme qui est son égal, qui a gloire, royauté, domination sur tous les peuples, sur toutes les nations, qui a une domination éternelle. Tout ça, c'est en Daniel 7, les versets 13-14. Alors, évidemment, il y avait cette prophétie de Daniel et on ne savait pas exactement de qui il s'agissait, du peuple d'Israël, d'une personne en particulier. Voilà ce fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel, qui participe à la puissance de Dieu. Ça, c'est une des traditions, un des éléments de l'Ancien Testament. Et il y a un deuxième élément de l'Ancien Testament qui vient cette fois du psaume 109-110. Un psaume très, très célèbre que nous prions dans l'office des vêpres chaque dimanche. Psaume 109-110. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. J'aurais dû prendre même le verset 1 en entier. Psaume de David, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Dans ce psaume 109-110, il s'agit pour David d'annoncer qu'un de ses fils, un de ses descendants, siège comme roi, comme un roi, comme le nouveau David. Voilà ces deux traditions, ces deux éléments de l'Ancien Testament que Jésus réunit. Alors, j'en vais en tirer la conclusion tout simplement. Jésus est donc en train d'annoncer qu'il est le roi, qu'il est le fils de David, qu'il est donc le Christ de cette manière-là, celui qui a l'onction, et qu'il est également le fils d'homme qui règne pour l'éternité. Donc il fait converger, il unit ces deux éléments, ces deux traditions. Jésus se présente dans sa royauté, dans sa puissance. Et voilà pourquoi nous l'avons entendu, le grand prêtre déchire ses vêtements en disant « Il a blasphémé, il a blasphémé ». Et c'est très important parce que Jésus, dans ce moment-là, se présente comme le fils de David, comme le descendant de David qui doit venir, qui est attendu, et aussi comme ce fils d'homme qui est l'égal de Dieu puisqu'il est sur les nuées du ciel, comme Dieu lui-même, comme l'ancien, comme le vieillard, décrit en Daniel 7. En fait, voilà, c'est exactement ce que nous confessons, nous le savons, la véritable humanité de Jésus, véritable descendant de David, de la filiation davidique, et en même temps, voilà, Seigneur, par sa divinité. Alors vous allez me dire, tout va bien, Jésus est là, il se présente dans son mystère, il y a simplement un problème, si je puis dire. C'est qu'au moment même où Jésus dit « Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir les nuées du ciel », à ce moment-là, le grand prêtre décide de le mettre à mort. Et si je continue le texte, « Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent, d'autres le rouèrent de coups, en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Autrement dit, au moment où Jésus explique qu'il est le Messie attendu, voilà que s'ouvre devant lui la voie de la souffrance, de la passion, de l'humiliation, des coups, de la croix. Et comme une contradiction évidente entre ce qu'il est en train de dire et ce qu'il va vivre. C'est très important de comprendre cela, parce que c'est précisément le problème que nous avons tous. Oui, nous voulons bien croire que Jésus est le roi, nous voulons bien croire que Jésus est le Christ, nous voulons bien croire que Jésus est le Messie, nous voulons bien croire que Jésus est le Fils du Dieu vivant, mais nous ne comprenons pas pourquoi il souffre, pourquoi il meurt, pourquoi il est moqué, humilié, outragé. Voilà. Nous sommes précisément à la croisée des chemins. Nous sommes précisément devant le scandale de la passion, de la mort de Jésus. Et il faut le dire, c'est un scandale. Voyez. On ne doit pas s'habituer à la mort de Jésus. On ne doit pas s'habituer à sa passion. C'est un vrai scandale. C'est un vrai problème pour nous. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Nous nous heurtons, c'est normal, nous nous heurtons à ce scandale. Et Matthieu nous aide en nous faisant comprendre que les Écritures sont en train de s'accomplir. C'est-à-dire que c'est bien comme ça que Dieu se manifeste, que Dieu a bien quelque chose à nous apprendre, à nous dévoiler, à nous faire comprendre dans cette passion et cette mort de Jésus. On retrouvera exactement cela, j'ai pas le temps de le commenter en détail, mais on retrouvera exactement cela au moment du choix de la foule entre Barabbas et Jésus. Vous savez peut-être que Barabbas est vraiment l'antithèse de Jésus. D'abord, il y a un élément tout simple, vous avez peut-être déjà entendu, vous avez déjà réfléchi à son nom, Barabbas, en araméen, ça veut dire fils du Père, Barabbas. Ça vous rappelle quelqu'un peut-être, fils du Père. Jésus lui-même a crié dans sa à Gethsémani, Abba, 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 Père, Barabbas, fils du Père. Et puis, Barabbas se trouve être un brigand, comme on l'a dans certaines traductions, mais plus précisément être une sorte de révolutionnaire, une sorte de rebelle, d'agitateur. C'est-à-dire que Barabbas a très probablement fait des révoltes contre l'empereur romain, contre l'empire romain. Barabbas n'est pas un brigand au sens où il aurait fait je ne sais quel vol, mais il a pris les armes pour tenter de renverser, de chasser l'occupant romain. Et voyez, frères et sœurs, nous sommes exactement à la croisée des chemins. Le Messie, le Fils du Père qui nous est donné, nous pouvons choisir Barabbas, nous pouvons choisir celui qui nous propose une libération par la force de ce monde, par la force dans laquelle nous mettons habituellement notre confiance, force physique, force morale, toutes les forces que vous voulez, où nous pouvons découvrir l'autre, le vrai Fils du Père, celui qui va nous libérer par un chemin complètement déroutant, le chemin de la défaite, si j'ose dire, le chemin de l'humiliation, le chemin dans lequel il est abandonné apparemment par son Père, le chemin de l'humiliation la plus profonde, de la descente au plus profond du mal, des ténèbres. Donc voyez ce moment du procès de Jésus devant Caïphe, chez saint Matthieu, voilà, vraiment nous pose la clé. Jésus annonce sa puissance, annonce sa royauté, annonce qu'il est le Messie attendu. Et en somme, pour dire les choses très simplement, on n'en veut pas. Alors évidemment, c'est Caïphe qui dit cela au nom du peuple de l'Ancienne Alliance, mais c'est évidemment chacun d'entre nous qui est concerné. Comme il est difficile d'accepter cette royauté-là, cette seigneurie de Jésus, cette victoire de Jésus. Alors, Matthieu nous aide en nous donnant l'accomplissement des Écritures, pour en rajoutant, si vous voulez, un troisième élément. Premier élément, Daniel 7, voilà, le Fils de l'homme, celui qui règne pour l'éternité au ciel avec Dieu, le Père. Deuxième élément, ce Christ, ce Messie, ce Fils de David attendu. Et voilà que vient la passion, la souffrance, la mort de Jésus. Et saint Matthieu, tout au long de la suite de son récit, va nous faire comprendre qu'il y a un troisième élément dans les Écritures. C'est la tradition selon laquelle le juste, le saint, doit souffrir pour entrer dans la gloire. Dans la suite de son récit, Matthieu va évoquer à de multiples reprises le psaume 22 que vous connaissez, que nous chanterons 22-21 selon les versions que nous chanterons ce soir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient, tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient, en toi ils espéraient, n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Bachan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort, oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens, moi, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide, préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Ce psaume 22, Matthieu va le citer à de multiples reprises dans la suite, à l'occasion notamment du chemin de croix, à l'occasion de la crucifixion. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, nous voyons un troisième aspect, comme je le disais, du mystère de Jésus dans sa passion. C'est celui qui est le Christ Jésus parfaitement confiant à l'égard de son Père. Celui qui vit une persécution, qui vit des insultes, qui vit des menaces, qui est transpercé, comme nous venons de l'entendre, dans les mains, qui est dépouillé de ses vêtements, qui est abandonné de tous, qui vit tout cela sans douter de la fidélité de Dieu, sans douter que Dieu ne peut pas, sans douter du fait que Dieu garde le juste, le saint, d'une manière que nous ne connaissons pas, d'une manière que ce juste même dans le psaume ne connaît pas, mais avec l'assurance que Dieu est fidèle. Évidemment, le psaume commence par ce « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, qui témoigne de l'angoisse immense. Mais comme vous le savez, comme nous venons de le lire, il se termine par le cri d'une réponse de Dieu, mystérieuse, inconnue, mais réelle. Et vous voyez, nous comprenons que Jésus n'est donc pas le roi, fils de David, n'est donc pas le fils de l'homme d'une manière désincarnée, comme s'il était sorti de notre humanité, mais en étant au plus près de nous, en venant habiter tout ce que nous sommes, toutes nos épreuves, toutes nos souffrances. Vous voyez, c'est capital. Nous pouvons découvrir en ce Vendredi Saint, grâce à saint Matthieu, grâce à cet accomplissement des Écritures, nous pouvons découvrir que le Christ n'est pas celui qui règne en nous faisant échapper à notre condition d'être humain, à notre condition pécheresse, à notre condition mortelle, mais en venant l'habiter, en venant nous rejoindre, en venant nous faire découvrir dans cette vie marquée par les épreuves que nous avons tous, la présence de Dieu, la fidélité de Dieu, le juste décrit par ce psaume 22, le juste serviteur décrit aussi par Isaïe 53, nous venons d'entendre dans l'office des Laudes un extrait du chant du serviteur souffrant en Isaïe 53. L'accomplissement des Écritures. Il faut, d'une certaine manière, que Jésus souffre pour que nous ne soyons pas sauvés d'une manière éthérée, d'une manière irréelle, d'une manière virtuelle, mais pour que nous soyons sauvés au cœur de notre vie. Au cœur de notre vie, au cœur de notre solitude, au cœur de nos épreuves. Si je reprends le texte de saint Matthieu, eh bien nous avons différents moments où cela est évoqué. Dans le procès chez Pilate, on retrouve cette évocation de Barabbas que j'ai déjà expliquée. Et puis, c'est en Matthieu 27, à la fin de ce procès, « Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et le posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus un mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient, en hochant la tête, ils disaient « Toi qui t'es détruit le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Citation encore de ce psaume 21-22. « Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani », ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Eli. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Eli vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Grâce à ces références aux Écritures, aux prophètes, à l'Ancien Testament, nous pouvons lire cette crucifixion de Jésus, cette mort de Jésus, comme l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est très important. Nous allons vivre le chemin de croix cet après-midi. Nous serons tentés, soyons clairs, nous serons tentés de douter. Nous serons tentés de douter de la nécessité de la souffrance de Jésus, nous serons tentés de douter, voyez, de ce que ça peut apporter, nous serons tentés de douter de ce que le salut est en train de s'accomplir. Eh bien, saint Matthieu, en tissant son récit de référence à l'Ancien Testament, nous aide à comprendre qu'à travers ces événements, c'est bien Dieu qui est en train de sauver l'humanité. C'est bien Dieu qui est en train d'accomplir le salut. En réalité, si nous lisons ces passages que je viens de lire avec attention, nous pouvons comprendre que Dieu est en train d'agir, que Dieu est en train de sauver, de délivrer. Voilà ce juste qui vit cet abandon, voilà ce juste qui est dépouillé de ses vêtements, voilà ce juste qui effectivement a mis sa confiance en Dieu. Certes, Jésus ne descend pas de la croix. Et c'est précisément parce qu'il ne descend pas de la croix qu'il est le vrai Messie, celui qui nous sauve réellement. Certes, Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est précisément parce qu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» priant le psaume 22-21, qu'il est le vrai Messie, le Sauveur. Voyez, saint Matthieu, nous venons de l'entendre, nous fait comprendre que dans la mort de Jésus s'accomplit l'œuvre de Dieu, s'accomplit ce que Dieu a toujours voulu faire, c'est-à-dire libérer l'homme de la mort, de l'esclavage de la mort. C'est très étonnant, hein ? Je pense que ça vous a marqué dimanche quand nous avons relu ce passage de l'évangile de saint Matthieu, cette passion selon saint Matthieu. Comme on n'a pas toujours l'habitude de plonger dans ces textes, vous avez entendu, hein ? Au moment où Jésus meurt, ça n'est pas la bérésina, ça n'est pas la désolation, c'est la victoire. Le rideau du sanctuaire se déchire en deux, la terre tremble, les rochers se fendent et les tombeaux s'ouvrent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitent. Ces morts devenus vivants entrent dans la ville sainte, se montent un grand nombre de gens. Et enfin, le centurion qui était là et ceux qui avec lui gardaient Jésus proclament vraiment celui-ci était fils de Dieu. Vous voyez, saint Matthieu nous fait comprendre que dans la mort de Jésus, il y a un événement qui est cosmique, qui concerne le monde entier, la terre entière. C'est ce qu'on appelle dans le style de la Bible, de l'apocalyptique, du dévoilement. Donc la question n'est pas tellement de savoir si les événements se sont vraiment passés comme ça. Ce qui compte, c'est que saint Matthieu raconte cela pour nous dire voilà ce qui est en jeu quand Jésus meurt. La terre est complètement renouvelée. La terre est bouleversée par cette mort de Jésus. Et cette mort de Jésus donne la vie. Cette mort de Jésus donne la vie puisque les tombeaux s'ouvrent, puisque les morts sortent et qu'ils sont vivants. Le rideau du temple est déchiré. Plus tard, le temple sera détruit. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, la rencontre avec Dieu était possible, vous le savez, dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem. Une fois par an, le grand prêtre, un homme, venait pour rencontrer Dieu, pour présenter à Dieu toute l'offrande du peuple, tous les péchés du peuple, pour qu'il en soit pardonné. Eh bien, désormais, le rideau du temple est déchiré. La relation avec Dieu est à nouveau possible pour tous les hommes, par Jésus, grâce à la mort de Jésus, qui nous réconcilie avec Dieu. Et cela est encore plus manifesté dans le fait que c'est un centurion, c'est-à-dire un païen, c'est-à-dire un non-juif, qui dit « celui-ci était le Fils de Dieu ». Vous voyez, il y a comme là une annonce de la conversion en masse de tous les païens. Tous les hommes et les femmes de par le monde, à partir de la mort de Jésus, vont pouvoir retrouver Dieu, vont pouvoir connaître Dieu, vont pouvoir avoir un accès à Dieu. Voyez, quand nous méditons cela, nous sommes conduits, appelés à nous émerveiller, de ce dessein surprenant de Dieu, mais si grand. Le grand prêtre Caïphe, sans doute certains du peuple juif, sont comme crispés, voyez, sur leur petit précaré, leur petite relation à Dieu à travers les Écritures. Ils pensent connaître les Écritures, connaître Dieu. Mais Dieu se manifeste d'une manière nouvelle dans ce chemin de la passion et de la mort de Jésus. Et révèle, voyez, un dessein beaucoup plus grand dans lequel tous les hommes sont inclus, dans lequel Jésus réconcilie tous les hommes avec Dieu. L'accomplissement des Écritures. Vous voyez, c'est très important.
Souvent, je remarque en discutant avec les uns et les autres que notre foi, votre foi, est faible, fragile parfois. Et je crois que l'une des explications, l'une des raisons, c'est un manque de connaissance des Écritures. Voyez. Dans le Credo, nous disons une chose toute simple. Crucifié sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, il fut mis au tombeau et il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Comment croire que la mort de Jésus nous sauve? Comment croire que Jésus est ressuscité? Eh bien, en se plongeant dans les Écritures, c'est-à-dire, comme on connaît dans la Bible, l'Ancien Testament. En comprenant, voyez, que c'est pas comme ça, là, Dieu qui brutalement dit, tiens, allez hop, voilà, Jésus, ça va être le sauveur, puis ça va se passer comme ça. Mais en plongeant dans ce grand dessein de Dieu préparé pendant des siècles et des siècles et des siècles, et nous devons plonger dans l'Ancien Testament pour nous émerveiller de ce que, effectivement, Jésus accomplit les Écritures d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer. C'est pour ça que beaucoup de Juifs ne comprennent pas à ce moment-là. Mais il n'empêche. Et qu'avec Jésus, nous avons la clé pour comprendre tout l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est très important. C'est pour ça que nous entendons chaque dimanche, sauf dans le temps de Pâques dans lequel nous allons rentrer, mais des passages de l'Ancien Testament. Et c'est indispensable. Hein, on ne nous demande pas de croire à Jésus comme si c'était une météorite tombée du ciel au premier siècle de notre ère. Bon, voilà, c'est comme ça. Jésus est arrivé, bon, vous devez croire en lui. Voilà. Non, il est l'aboutissement de tout un processus dans l'histoire. Commencé avec Abraham. Et en nous plongeant dans ces Écritures, nous nous émerveillons de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu a toujours voulu faire. Et hier, je disais que pour entrer dans ce tridième pascal, il fallait consentir à la révélation. Pour moi, c'est un point très important. Vous savez, nous avons tous des idées de Dieu. Nous avons tous des images de Dieu. Nous avons tous l'idée de la manière dont Dieu devrait agir. Frappant, hein? Dans telle ou telle circonstance, en permanence. Ah bah, Dieu devrait faire ça quand même. Dieu devrait faire ceci. Dieu devrait, je vais me plonger dans l'actualité, allez, soyons audacieux, Dieu devrait quand même prévoir tel ou tel candidat. Que tel ou tel candidat soit élu, c'est comme ça que ça devrait se passer, pour le bien. Tout le monde est convaincu du bon candidat que Dieu devrait choisir. Et on est tous convaincus de ce que Dieu devrait faire. Mais le mystère de la passion, je pense qu'il est ce mystère dans lequel nous apprenons à abandonner nos images de Dieu, nos idées de Dieu, pour l'accueillir tel qu'il est. C'est fort et profond ce que j'essaie de vous dire. Hein, ces multiples scandales ces multiples souffrances qui traversent notre vie, qui traversent la vie de l'humanité. Mais qui est Dieu, soyons clairs, mais qui est Dieu pour laisser advenir un attentat en pleine messe des rameaux? Qui est Dieu? Comment est-ce que Dieu peut laisser se faire cela? Voyez, nous sommes là pour contempler le mystère de la Passion, pour nous laisser convertir, pour entrer dans la manifestation de Dieu tel qu'il est, tel qu'il veut sauver les hommes, et non pas tel que nous pensons qu'il devrait faire, qu'il devrait agir, par son bras puissant, par la force armée, par les... C'est un grand mystère, je prétends pas du tout le comprendre. Je voudrais juste qu'ensemble nous mettions en fait à genoux pour accueillir la manière dont Dieu fait et dire mais bon, c'est donc comme ça que tu veux vraiment nous sauver, que tu veux nous libérer, que tu veux nous donner la vie, que tu veux réconcilier tous les hommes avec toi. Je voudrais précisément terminer sur un aspect plus théologique, comme on dit, à savoir la question de la dimension salvifique de la mort de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Jésus nous sauve par sa mort? Nous l'entendons dans Saint Matthieu avec cette idée de l'accomplissement des Écritures, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la mort de Jésus change? On va revenir à des choses fondamentales de notre foi. Nous le savons, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi. La mort est entrée dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, avec sous l'action du tentateur, on est bien d'accord, mais il n'empêche par cette désobéissance. L'homme, l'être humain, au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de répondre à son amour par l'obéissance, a choisi d'en faire à sa tête, prétend mettre la main sur la vie éternelle, prétend se donner à lui-même la vie éternelle en mangeant de ce fruit, et cela provoque ce drame, ce scandale de la souffrance, de la mort pour toute l'humanité. C'est ça le péché des origines. C'est ça le péché originel. Puis vient, après cette longue préparation, puis vient le Christ Sauveur, puis vient le Christ Jésus. Que fait-il? Dans la théologie, on dit qu'il va satisfaire pour nos péchés. C'est un mot qu'on n'aime pas trop. Il va satisfaire pour nos péchés par sa mort. Que sa mort nous vaut la réconciliation. Alors on n'aime pas trop ça parce que de prime abord, et on a raison, on imagine que ça veut dire que il y a le poids de nos péchés d'un côté, et pour les réparer, il faut qu'il y ait un poids de souffrance, voyez, que Jésus souffre beaucoup, 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 hein, pour rééquilibrer le poids de nos péchés. Et que Dieu, qui a une sorte de balance devant lui, fait rééquilibre, admet que nos péchés sont rééquilibrés par les souffrances de Jésus. C'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas une question de quantité. Ça n'est pas une question d'équilibre sur la balance. Il y a un chant, vous connaissez tous, un chant de Noël, mais il n'empêche qu'il y a cette idée, hein, minuit chrétien, pour apaiser de Dieu le courroux. Jésus doit souffrir beaucoup pour faire taire, pour calmer la colère de Dieu. Dieu est très en colère parce qu'il y a beaucoup de péchés, et donc il faut que Jésus souffre beaucoup pour équilibrer ça. C'est pas ça. dans la mort de Jésus, dans sa passion et dans sa mort, le cœur n'est pas la quantité de souffrance de Jésus. Pour le coup, ce que le film de Mel Gibson que j'évoquais hier, je crois, ne perçoit pas bien, n'est pas dans la quantité de souffrance de Jésus. Elle est dans cette satisfaction, c'est-à-dire dans une relation personnelle entre Jésus et son Père. Entre Jésus et son Père. Je lisais récemment une explication de la satisfaction qui m'a beaucoup aidé. Si nous avons blessé quelqu'un, peut nous arriver d'avoir blessé quelqu'un, si nous lui avons, par exemple, allez, on va prendre un exemple tout simple, très concret, voilà, quelqu'un me prête sa voiture et j'abîme, voilà, j'abîme sa voiture, même complètement, elle est hors d'état de fonctionner. Et il se trouve que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de lui racheter une nouvelle voiture. Donc l'autre peut m'en vouloir à juste titre, hein, de ce que j'ai mis sa voiture hors d'état de nuire, de fonctionner, pardon, et de nuire peut-être aussi. Et je vais chercher à me faire pardonner. Et je vais tout simplement lui dire, bah, écoute, voilà, je vais te proposer de voilà, allez, viens, pour me faire pardonner, je te propose de t'inviter au restaurant. Dans cette relation interpersonnelle avec cette personne, qui peut être mon frère, un ami, que sais-je, la réparation peut avoir lieu. Je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience. Le geste que je fais de lui manifester, voilà, mon désir de réparer la bêtise que j'ai pu faire en prenant soin de lui, en lui faisant un petit cadeau, va le remettre, lui permettre, va nous permettre de retrouver, voilà, cette communion qui a été abîmée par l'acte imprudent que j'ai fait et qui lui a causé du tort. Et bien, voyez, ce petit exemple peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans la mort de Jésus. Pas une quantité de souffrance qui est censée rééquilibrer l'offense que sont nos péchés, car cette offense est grande, mais un acte d'amour, un acte par lequel Jésus montre à son Père qu'il l'aime, lui manifeste son amour, lui manifeste son intention de retrouver la communion avec lui. Et voyez, nous touchons du doigt que Jésus fait ça, encore une fois, comme je le disais hier, non pas pour lui, mais pour nous. Il faut que nous comprenions que Jésus, dans sa passion, s'approche de son Père en disant « Regarde ces hommes, ils n'arrivent pas à t'aimer. Ils n'arrivent pas à t'aimer comme tu devrais être aimé. Moi, en leur nom, je viens te manifester un amour total. » Complet, entier. Et lui, Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, qui est vraiment homme et vraiment Dieu, donne à son Père un acte d'amour total, complet, parfait, pur. Et son Père accueille cet acte d'amour et décide qu'à partir de là, tous les hommes sont réconciliés avec lui. Vous voyez, c'est le cœur évidemment de notre foi, c'est le cœur de notre foi. Sans l'acte d'amour de Jésus qu'il vit sur la croix, sans cet acte absolu d'amour, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Car nous n'avons pas les moyens, si je reprends mon exemple, nous n'avons pas les moyens de racheter une voiture. Nous n'avons pas les moyens de réparer, c'est juste pas possible. Nous sommes que des hommes. Nous ne sommes pas capables de donner à Dieu l'amour qui convient à Dieu. Notre péché nous a rendus absolument incapables de cela. Voyez, c'est très beau et très fort. C'est très beau et très fort. C'est capital de saisir cela. Le propre du chrétien, je voudrais le redire encore et encore et encore. Le propre du chrétien, ça n'est pas celui qui, voyant Dieu, décide de retrousser ses petites manches et de se dire, voilà, maintenant j'ai compris qui est Dieu, je vais être à la hauteur de son amour. Le propre du chrétien, c'est de comprendre qu'il est sous un esclavage, l'esclavage du péché et de la mort, et qu'il ne peut pas en être libéré par lui-même, et que c'est un autre qui vient l'en libérer, que c'est le Christ qui vient le sauver, et qu'il met donc toute sa confiance dans le Christ qui sauve, qui libère, qui délivre, qu'il attend tout de lui. Nous avons un sauveur. Nous sommes sauvés par un autre. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres par nous-mêmes ou parce que nous aurions compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Nous avons juste la révélation qu'il y a un sauveur et que ce sauveur ne demande qu'à nous sauver, ne demande qu'à ce que nous nous mettions au pied de la croix pour bénéficier de son salut, pour bénéficier de l'offrande qu'il fait de lui-même au nom de tous les hommes, pour que nous retrouvions la vie avec Dieu. Voilà, c'est évidemment l'enjeu de tous les sacrements, en particulier, évidemment, de l'Eucharistie, comme je le disais hier soir, qui actualise ce salut. C'est étonnant de voir que aujourd'hui même, il n'y aura pas d'Eucharistie. L'Eucharistie ne sera pas célébrée, la messe ne sera pas célébrée, parce que précisément nous faisons mémoire de l'acte de Jésus qui est rendu actuel, présent dans chaque Eucharistie. Je dirais d'une certaine manière, aujourd'hui nous n'avons pas besoin de la messe parce que nous contemplons, nous méditons sur la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus qui nous réconcilie et qui est rendu présent dans chaque messe. Pour finir, je voudrais simplement vous donner 2-3 clés sur l'office de la Passion que nous vivrons aujourd'hui. Je l'ai dit hier, les 3 offices du Jeudi Saint, de la Passion, de la Vigile sont le cœur du Triduum. Comme vous le savez, l'office va commencer par cette grande prostration des prêtres face contre terre. Ce sera l'occasion pour chacun de nous de contempler Jésus dans l'abandon total qu'il fait de lui-même à la volonté divine, la reconciliation totale de lui-même à Dieu. La réconciliation peut avoir lieu, la réconciliation des hommes avec Dieu peut avoir lieu parce que Jésus s'abandonne complètement. Il y a ensuite cette liturgie de la parole, suivie d'une grande prière universelle, précisément parce que Jésus est à ce moment-là, au moment où il est sur la croix, le grand intercesseur, voyez, le grand prêtre. C'est le moment où il prie pour le monde. C'est le moment où il a le plus le souci du monde entier. Il vit sur la croix cette intercession pour le monde entier. Et nous serons invités à nous unir à cette intercession. Il veut réconcilier tous les hommes avec Dieu. Et enfin, il y aura la vénération de la croix, comme je l'ai déjà évoqué. Je nous invite à nous approcher de la croix pour y recevoir la vie, pour reconnaître que c'est l'offrande de Jésus, l'acte d'amour, l'acte absolu d'amour de Jésus qui donne la vie. Vous pourrez vous approcher de la croix en demandant à Jésus de vous donner la vie, de vous sauver. Enfin, comme Dieu est très bon, nous pourrons communier pour avoir ce pain de la vie, pour vivre le samedi saint, ce jour du grand silence, ce jour de la grande absence, avec la force de Dieu. Prions
vraiment les uns pour les autres, afin d'être, voilà, d'être rejoints par cette offrande de Jésus et de goûter à la fin de cette journée, de recevoir une nouvelle confiance en la puissance de la mort de Jésus, en la puissance qui se déploie dans la mort de Jésus. Amen.
Voilà, nous entrons dans ce temps assez vide, il n'y a pas d'adoration, on peut prier simplement dans l'église. Le Père Philippe pourra recevoir ceux qui veulent recevoir le sacrement de réconciliation. Et puis, je vous invite à prendre ceux qui ne l'ont pas, la neuvaine à la miséricorde divine. Elle a été mise dans les présentoirs. Donc, Jésus demande à Sœur Faustine de prier cette neuvaine qui commence aujourd'hui et qui se termine dimanche pour les élections. Donc, je vous lis ce que dit Jésus à Sœur Faustine. Je désire que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puisent force et fraîcheur ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras jusqu'à mon cœur un groupe d'âmes différents et tu les plongeras dans l'océan de ma miséricorde. Et moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde, et chaque jour, par ma douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes. Voilà, donc vous avez dans le petit livret la neuvaine, et puis le petit mode d'emploi pour ceux qui ne savent pas dire le chapelet de la miséricorde. Tout est bien expliqué. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.